Ok.
Bien, bonsoir. Alors, vous avez dû recevoir le titre de l'étude qu'on va faire ce soir. Alors, bon, pour les personnes qui sont habituées à mes études, je pense que ça sera dans le sujet. Mais ne me lapidez pas si ce n'est pas exactement ce que vous attendiez. Voilà. Alors, effectivement, j'ai entendu à la radio la semaine dernière une émission sur la méditation et ça m'a interpellé parce que il disait que c'est un phénomène de société important et il y a beaucoup de stages de méditation pour apprendre à faire la méditation. Alors ça m'a interpellé, la problématique m'a interpellé. J'ai étudié un passage du Talmud de ces derniers temps et je peux pas dire que ça parle directement de la chose, donc ça veut dire encore une fois je précise, mais ça peut nous éveiller à une réflexion. Voilà, ça peut nous éveiller à une certaine réflexion. Une seconde. Voilà. Alors, on étudie, nous, à l'Eshiva, le traité Yoma, et il y a un passage surprenant, et je pense de portée générale, qui nous donnera des éléments de réflexion. Bien. Alors, le traité Yoma parle du service à Yom Kippour au temple. Pour les personnes qui étaient là il y a un mois à peu près, quelques semaines avant Pessah, on avait déjà vu un passage du traité Yoma. Et, donc on parle du service au temple. Ça c'est un, à Yom Kippour. Et de manière plus générale, on parle du service même quotidien au temple. Ce qui est assez impressionnant parce que le temple n'existe plus depuis grosso modo 2000 ans, mais quand on étudie le Talmud, c'est comme si on y était. On étudie vraiment, quand on étudie le Talmud, c'est vraiment des fois, on a l'impression qu'on est dans le temple de Jérusalem et qu'on sait tous les détails du service au temple de Jérusalem. Un talmudiste, qui est vraiment dans le coup, le service des corbanotes, des sacrifices, est quelque chose de tout à fait... il connaît très très bien ces sujets. Bien. Alors, madame, je passe une photocopie. Alors, pour commencer, le point, c'est sûr. Il y a deux sacrifices perpétuels au temple. Tous les jours, il y a deux corbanotes. Alors, je traduis corban par sacrifice, mais c'est un abus de langage. Deux offrandes, le matin, l'après-midi. Le matin, l'après-midi. Tous les jours, le matin, l'après-midi, on offre le matin un agneau, l'après-midi un agneau. Voilà, ça s'appelle Korban Tamid. Alors, l'après-midi, c'est Tamid Shel Ben Arbaim, c'est le Tamid, le sacrifice perpétuel, Ben Arbaim, quand on va vers le soir. À partir de quel moment on va vers le soir? Alors, la définition des jours dans le Talmud, c'est comme ça. Vous avez le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Vous comptez 12 heures. 12 heures. Donc 6 heures. 6 heures, c'est lorsque le soleil est au zénith. Donc ça veut dire, les heures, ce ne sont pas des heures de 60 minutes.
Oui.
Ce n'est pas des heures de 60 minutes. Ça dépend. Si on est en été, les heures sont plus que 60 minutes. Si on est en hiver, les heures, c'est moins que 60 minutes. OK. Alors, encore une fois, le sujet, je pense qu'on parlera du sujet de lancer l'histoire de la méditation. On y parlera, mais on part d'un passage de Talmud. On part d'un passage de Talmud, donc c'est du Talmud. Monsieur. Je voulais où ça commence. OK. Alors, à 6 heures, c'est là où le soleil est au zénith. 6 heures et une minute commence l'après-midi. Donc, on pourrait offrir le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel de l'après-midi, à 6 heures et une minute. 6 heures et une minute. Mais la Mishnah nous dit, la première Mishnah du 5e chapitre du traité Psachim, que le Korban Tamid, on l'offre à 6h30. Pourquoi on ne le fait pas à 6h1 à 6h30? C'est le sujet absolument passionnant. Je sens. Ouais. Je sens, ça c'est le sujet vraiment passionnant que nous allons voir ce soir. Hein, c'est bon quand même.
C'est midi 30.
C'est midi 30, oui. Mais c'est 6. Oui, absolument. Mais en juif, c'est 6h. Vous avez compris c'est-à-dire, ça s'appelle des heures relatives.
D'accord.
C'est pas des heures absolues, c'est des heures relatives. Relatives à la longueur de la journée. De la même manière, minuit, ça sera 6 heures de la nuit. OK ? Bien. Alors maintenant, le passage que nous allons voir, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne en haut. Huitième. Amar Rav Safra. Rav Safra dit, donc c'est un passage du Talmud de Babylone. C'est Dav Kafret Amud Bet, folio 28b dans le traité Yoma. 28b, traité Yoma. Donc c'est huitième ligne en haut. Amarav Safra, c'est les deux derniers mots de la huitième ligne. Amarav Safra. Tsilute de Avram, mechim shrare kotle. La prière d'Abraham, c'est à partir du moment où les murs s'obscurcissent. Bien, alors, le commentaire premier du Talmud, c'est Rashi. Rashi explique que si vous avez un mur orienté nord-sud, vous avez un mur orienté nord-sud, lorsque le matin, le côté est du mur est illuminé et le côté ouest est dans l'obscurité. À midi, ta pente, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, le mur est et encore illuminé. Dès que il y a un soupçon d'ombre sur un mur vertical, c'est à ce moment-là que Abraham faisait la prière de l'après-midi. Voilà. À partir du moment où un mur bien vertical, il y a le bas du mur commence à être obscur, c'est là qu'Abraham commence sa prière. Ok, c'est bon. Ça veut dire que les prières correspondent au moment des sacrifices, Donc, la prière de l'après-midi, Abraham l'a commencé tout de suite. C'est Minchal Dola. Ouais, il commençait tout de suite, dès que les murs, machin, milieu. Ok. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, Anan, mais Avram Nikom Venigmo. Rav Yosef, il dit, mais nous, on devrait apprendre d'Avram et faire comme Avram. Pourquoi on ne fait pas comme Avram? Alors, Amar Rava, Tana, Gamar, mais Avram. Il dit, non, si, on apprend bien d'Avram. C'est quoi? C'est que dès que c'était l'heure de faire la prière, il ne tardait pas, tout de suite, Abraham faisait la prière. Comme on sait que Abraham est zariz, c'est-à-dire il est empressé pour faire les commandements. Dès qu'il peut, il fait le commandement. Voilà. C'est Abraham, il est zariz. Bien. Ok. Donc vous voyez ici quel est l'intérêt du texte. Le texte nous dit que Abraham, dès qu'il pouvait faire la prière, il commençait à faire la prière. Voilà. Mais alors, on devrait apprendre d'Abraham. On devrait apprendre d'Abraham. D'Etania. Il dit oui, on apprend d'Abraham. D'Etania. Bayom Hashmini Imol Basar Orlato. Qu'au sujet de la circoncision, l'enseignement nous dit que le huitième jour, on fait la circoncision. Bayom Hashmini Imol Basar Orlato. Le huitième jour, on fait la circoncision. Melamed. Chez Kolayom Kacher Lamila, c'est-à-dire que quand il y a un bébé qui naît, le huitième jour, un petit garçon, le huitième jour, on fait la circoncision. Toute la journée est apte pour faire la circoncision. Donc, par exemple, on peut faire la circoncision à 8h du matin, on peut faire la circoncision à 4h de l'après-midi. Tout le huitième jour, c'est bon. Beyom Hashmini. Le huitième jour, c'est bon. Beyom Hashmini. On peut faire la circoncision le huitième jour. Néanmoins, on apprend. Et là, Shazirzrizim Magdimim la mitzvot. Néanmoins, on a la coutume de faire la circoncision le huitième jour dès qu'on peut. Chez Nehemar, comme dit le verset, Vayashkem Avram Baboker Vayachavosh. Avram s'est levé tôt le matin et a scellé son âne. À quel sujet le verset dit « Abraham s'est levé tôt le matin à sceller son âne » Voilà. Pour la ligature de Isaac, tôt le matin, Dieu lui a dit « Tu vas prendre ton fils, etc., ton unique, et tu vas le ligoter. » Eh bien, le lendemain matin, Abraham s'est levé tôt. Donc on apprend que Abraham est zélé dans l'accomplissement des commandements. De la même manière, nous on apprend d'Abraham que lorsqu'il y a le huitième jour après la naissance d'un petit garçon, le mieux c'est de faire la circoncision tôt le matin, de ne pas tarder. On va sur le chemin d'Abraham, on ne tarde pas pour accomplir les commandements. Monsieur, alors une seconde. Voilà. C'est là où on en est. Alors pourquoi Rav Yosef, il n'est pas content en disant « Pourquoi nous, on ne fait pas comme Abraham ?» Messieurs, dames, vous voulez savoir où on est dans le texte, peut-être ?
Non, monsieur. En fait, on ne sait pas lire.
D'accord, ce n'est pas un problème.
C'est un sujet sur la méditation.
Certes, certes. Alors, mais est-ce que vous avez reçu le... Je ne sais pas, moi, le... On vous a prévenu. Non, j'explique en un mot. En un mot.
Merci.
C'est un cours de Talmud.
D'accord.
Mais j'explique. N'ayez pas peur. C'est pas une maladie. c'est pas une maladie. C'est à partir d'un texte du Talmud que nous allons aborder la problématique.
D'accord.
Or, me semble-t-il que le texte que nous allons voir, a priori, parle d'autre chose. Mais petit à petit, on va rentrer dans ce sujet. Ok. Donc apparemment, on voit aucun rapport avec rien, ouais. N'est-ce pas? C'est peut-être le côté méditatif du sujet.
C'est
facile. Comment? Voilà. Mais donc, apparemment, il n'y a aucun rapport avec quoi que ce soit. Mais il me semble qu'à terme, on va rentrer. Mais c'est comme ça. Les gens qui me connaissent, je peux y en avoir plusieurs ici, c'est en général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Chacun sa méthode. Voilà. Chacun sa méthode. Merci. Bien. Alors, pourquoi... Donc, pourquoi Rabbi Yosef n'était pas content? Il dit, pourquoi on n'apprend pas d'Abraham? Abraham, dès qu'il pouvait, il a fait la prière. Pourquoi on n'apprend pas d'Abraham? Et là, Rava, il dit, Rabbi Yosef a kakashiale. Rabbi Yosef, c'est l'enseignement suivant qui lui est problématique, d'Etnan, parce que la première Mishnah du cinquième chapitre du traité Psachim nous dit, Ralerev psachim liyot berev shabbat nishrat beshesh umertza vekarev besheva umertza. Que la veille de Pessah, si la veille de Pessah tombe la veille de Shabbat, on fait l'abattage rituel du sacrifice perpétuel à 6h30, c'est-à-dire, pour faire ça, une demi-heure après que le soleil soit au zénith. D'où la question, pourquoi n'est-on pas plus zélé pour faire tout de suite, une minute après, que le soleil soit zénith? Alors, il faut savoir que la problématique est dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, là vous voyez, j'ai personnellement un smartphone assez ancien, bon, Samsung 3S qui était moderne il y a quelques années, mais disons, il y a 2000 ans, il n'y avait pas ça. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord, n'est-ce pas? Bien. D'où la question là, vous voyez, c'est écrit 20h56, donc c'est bon. Mais, il y a 2000 ans, ils n'avaient pas ces bestioles. Donc, quel moyen avait-il de savoir... Est-ce qu'on est juste avant que le soleil est au zénith, juste après? Comment le savoir? Au niveau basique, comment sait-on que le soleil est au zénith, pas au zénith? Alors, nous, on a ces instruments. Mais comment, au niveau le plus simple, comment on le fait? Comment?
Avec un bâton.
Voilà. Mais alors, le bâton...
S'il y a du soleil.
Alors, le bâton, le problème, c'est que le bâton, tu vas voir... tu ne vas voir pas tout de suite que c'est... Quand tu n'as pas d'ombre, c'est le zénith. Mais le moment qui est de l'ombre, ça va prendre un peu de temps quand même. Parce que le sacrifice de l'après-midi... C'est interdit de le faire le matin. Donc il faut être vraiment sûr. Mais comment être sûr de l'heure? Comment être sûr de l'heure? C'est ça la problématique. Comment on peut être sûr? Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus des smartphones, plus des trucs comme ça. Comment on va savoir? Alors effectivement, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Mais pour que l'ombre soit sensible, il faut que ça soit quand même un certain temps. Quand même, ça soit un certain temps. Alors, Abraham, c'était pile poil. Dès que ça passe, le zénith est passé, il faisait la prière. Mais comment, pourquoi au temple on attend une demi-heure? C'est ça la question. Question, je sens, qui vous passionne. Là, je le sens, c'est la question, ça veut dire pulsionnelle. Là, on est dans une pulsionnalité de la question qui nous prend au trip. Voilà. Alors, donc il dit, pourquoi au temple on ne fait pas avant une demi-heure? C'est ça la question du Talmud. Maïkushia, le Talmud dit, quel est le problème? Dilma, Kotle de Bet Amigdash Beshesh Omerza Mishraché, Mishum de Lomechavne Touba. Peut-être que les murs du temple, c'est seulement à 6h30 qu'ils commençaient à s'obscurcir. Parce que peut-être que les murs n'étaient pas droits complètement. Parce que si le mur n'est pas complètement droit, si vous avez, ça dépend de la construction. Si c'est complètement vertical, fin et vertical, effectivement, peu après que le soleil soit au zénith, ça commence à devenir obscur en bas. Et peut-être que les murs du temple étaient épais et aussi n'étaient pas complètement verticaux. Donc il fallait attendre un petit peu. Peut-être qu'ils étaient bosselés, pas vertical. Donc peut-être qu'il fallait attendre plus que quelques minutes. Si vous avez des remarques... Oui.
Effectivement, il est disposé d'une certaine manière. À droite comme ça, et je posais la question si c'était comme ça. Il y a une démarcation, je crois, dans la verticalité.
Donc c'est.
On n'a pas l'impression que ça tombe dessus.
C'est comme ça. Ah, c'est-à-dire que dans le. C'est comme au Parthénon, etc. Dans l'Antiquité, les murs n'étaient jamais verticaux. Parce que ce que vous dites. C'est que si le mur est strictement vertical, tu as l'impression qu'il te tombe dessus. Donc on est obligé de le pencher pour avoir une impression d'espace.
C'est ce qu'il y a dans
voilà. Donc ça, c'est la première... Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Que les murs du temple ne sont pas verticaux, donc l'ombre avant qu'elle ressorte, ça prend du temps. Inami, autre réponse. Shane Abraham de istagninut gedola aita belibo. On peut donner une autre réponse, c'est que si nous on fixe la prière. De tout à chacun est indexé sur le service du temple. Et si on dit que le service du temple, c'est à 6h15, à midi et quart, un quart d'heure après le zénith, tout à chacun ne saura pas exactement quand est-ce que c'est le moment du zénith et juste après le zénith. Parce que la prière que nous faisons de l'après-midi est indexé au service du temple. Si on fait le service du temple, les gens vont dire, nous on fait la prière selon les horaires du temple. Bien. Or, au temple, si tu dis que c'est 6h15, c'est-à-dire un quart d'heure après le moment du zénith, les gens risquent de pas bien savoir. Parce qu'un quart d'heure après le zénith, ce n'est pas tellement discernable. Et ils risquent de faire la prière, et que ce n'est encore pas le début de l'après-midi, mais c'est encore la fin du matin. Ah, alors Abraham, comment ça se fait qu'Abraham le savait bien? À quelle heure c'était le moment du zénith? Réponse du Talmud, c'est que Abraham était un très grand astrologue. Abraham... En vérité, Abraham, c'est toute une aventure. L'aventure d'Abraham, c'est toute une vie. Abraham, il a commencé par être astrologue. Abraham, où est-ce qu'il a grandi, Abraham? Comment? Ur, c'est où? Ur. Comment? C'est aujourd'hui, où est-ce que c'est Ur? C'est en Irak, c'est au sud de l'Irak. C'est au sud de l'Irak. Pour ceux qui se souviennent des bombardements à l'époque de la première guerre du Golfe, lorsque l'armée américaine bombardait l'Irak, justement, il y avait des bombardements à Ur. Parce que Saddam Hussein, il avait mis son arsenal justement dans les ruines de l'époque d'Abraham, là-bas à Ur, c'est dans le sud de l'Irak. Or, la culture à l'époque d'Abraham, c'était l'astrologie. C'était l'astrologie. Et Abraham était un savant astrologue. D'ailleurs, c'est comme ça, à travers cette astrologie. C'est quoi l'astrologie ? L'astrologie, c'était la culture dans la haute antiquité, était l'astrologie, c'est l'influence des constellations sur le monde que nous vivons. Et cette connaissance, Abraham était un grand expert sur les calculs astronomiques et les gens de l'époque venaient consulter Abraham sur les connaissances. Parce que tous les calculs mathématiques, astrologiques et ensuite astronomiques viennent des calculs de l'époque, viennent des calculs babyloniens. Mais pourquoi l'humanité s'est intéressée à ça à l'époque ? C'était pas de manière désintéressée, c'était pour savoir qu'est-ce qui va advenir. Parce que tous les humains, on a toujours voulu savoir qu'est-ce qui va advenir de nous. Ouais, c'est des questions qu'on se pose. Par exemple, les Juifs français se posent la question, est-ce qu'il faut faire son alia ? Pas de problème. Regardons dans les astres. Non, c'est comme ça qu'ils faisaient autrefois. Et ils voyaient, voilà, selon la dominante, machin, bidule. Et Abraham, petit à petit, a réfléchi sur tous ses calculs, sur toutes ses influences cosmiques. Et à la fin, il s'est dit, mais d'où viennent ces influences cosmiques ? Bonsoir. D'où viennent ces influences cosmiques ? Peut-être y a-t-il une force qui régit cela au départ, avant, plus fondamentale. C'est par l'astrologie qu'Abraham a découvert Dieu. Et Abraham, justement, voyait que d'un point de vue astrologique, il ne pourrait pas avoir d'enfant de Sarah. Il voyait qu'il était bloqué. Avec Sarah, il ne pourrait pas avoir d'enfant. C'était fini. C'était cuit pour lui. Abraham, son projet était de fonder une famille dont la vocation serait de servir Dieu. Mais d'un point de vue astrologique, il voyait, c'est pas possible. Et c'est ça ce que Dieu lui a dit, sort de son astrologie. Mais au départ, c'était Abraham était complètement, si vous voulez, c'était une société scientifique, mais qui procédait pas selon les calculs scientifiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez ce stylo. Si je lâche ce stylo, qu'est-ce qui va se passer ? Il va tomber ? Est-ce que vous en êtes sûr ?
C'est ce que moi je vais voir.
Je pense que c'est vérifié scientifiquement. C'est-à-dire que il y a la force de la gravitation et nous vivons là-dedans. Il y a des lois de la nature dans lesquelles nous évoluons qui sont pour nous des évidences. L'investigation scientifique est dans un certain domaine. À l'époque babylonienne, l'investigation était, on pourrait dire, des influences pas strictement terrestres, mais des influences des astres et des constellations. Ça, c'est la science, la grande science, dans la première antiquité, la haute antiquité. Et Abraham était un expert de ça. Réponse du Talmud. Comment Abraham pouvait-il faire la prière à 6 heures, une ou deux minutes ? Réponse, c'était par ses calculs mathématiques. Abraham était un expert en astrologie, ce qui veut dire c'était un expert en mathématiques et il pouvait se permettre de faire la prière à 6h01. Voilà. Ce que les sages ont dit, mais ça c'est Abraham, la plupart des gens n'ont pas ces connaissances, c'est pour ça qu'on fait la prière à 6h30. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut se poser la question. On peut se poser la question, nous avons, nous, dans le rituel de la vie juive, on fait la prière du matin, shacharit, prière de l'après-midi. La prière de l'après-midi se fait une demi-heure après le moment que le soleil ait été au zénith. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas faire la prière quand c'est encore le matin. Donc on donne une demi-heure de battement. Mais vous allez dire, nous aussi, on a un moyen astrologique très développé qui s'appelle Samsung. Priez pour nous. Donc on a... Pourquoi on attend une demi-heure? Réponse, c'est que c'est vrai, on a notre Samsung, mais si, par exemple, je n'ai pas branché d'électricité, comment je vais faire? Donc, c'est pour ça qu'on attend une demi-heure. Mais Abraham, lui, avait des moyens extrêmement fiables et il pouvait se permettre de faire la prière à 6h01. Troisième réponse du Talmud, inami ou bien. Inami, mishum de zaken veyoshev veyeshiva ava. Non, que Abraham était très particulier, que Abraham était zaken veyoshev veyeshiva. C'était, je l'écris en lettres françaises, zaken et yoshev ba yeshiva. Abraham était un ancien, Zaken, un ancien, assis à la yeshiva. Zaken Yoshev ba yeshiva. Abraham était un sage très particulier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham était un sage très particulier? Qu'est-ce que ça veut dire c'était un sage très particulier? Au sens simple du texte, c'est que c'était un érudit hors pair, et que si lui se permettait de faire la prière à 6h01, tout à chacun n'est pas au niveau d'Abraham, donc on ne peut pas faire forcément comme Abraham. C'était un cas exceptionnel. Maintenant, notre sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham était Zaken? Zaken, ça veut dire Zaken, ça veut dire un vieux. Un vieux, qui est assis à la yeshiva. Qu'est-ce que ça veut dire, assis à la yeshiva? Ça va être notre sujet. Ça va être notre sujet. Comment sait-on qu'Abraham était un zaken yoshev ba yeshiva? Deamar Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Parce que Rabbi Chama be Rabbi Hanina nous dit, mais même chez l'avotenu, l'opircha yeshiva mehem. Depuis l'époque des patriarches, il y a toujours eu la yeshiva dans le peuple d'Israël. Depuis toujours, il y a eu la yeshiva dans le peuple d'Israël. Comment le savons-nous? Chez Neymar, comme dit le verset, l'air ve'a safta et zikne Israël. Lorsque Moïse était au buisson ardent, pendant 7 jours, Dieu a essayé de le convaincre d'aller en Égypte et d'aller voir Pharaon et de dire à Pharaon quoi? Let my people go. Voilà. D'aller voir Pharaon et lui dire, laisse partir mon peuple. Et Dieu, finalement, Moïse a dit non, etc. Au bout de 7 jours, il a accepté. Et Dieu lui a dit, L'air vers Savta va et rassemble les anciens d'Israël. Va rassembler les anciens d'Israël. Quand tu vas arriver en Égypte, rassemble les anciens d'Israël. Qu'est-ce que c'est ces anciens d'Israël? C'est ça la question du Talmud. C'est quoi ces Zikné Israël? Essayons de nous imaginer quel était le sujet. On sait que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu dit, va rassembler les Zikné Israël, les anciens d'Israël. C'est qui, d'après vous, c'est qui?
Les descendants.
Comment?
Les descendants des premiers venus en Égypte.
Descendants.
Les descendants des premiers qui sont arrivés en Égypte.
Donc les vieux, ça veut dire vieux.
Pas vieux en âge, nécessairement.
Alors, mais pourquoi il dit des vieux?
Les anciens.
Et c'est qui ces anciens?
Anciens, ça ne veut pas dire nécessairement vieux.
Oui, mais c'est qui?
Les indigènes, ceux qui avaient une. Est-ce que je traduis? Ce que je comprends, c'est les gens qui avaient des ancêtres qui étaient.
Les descendants.
De qui? Et tous les Hébreux. Tous les Hébreux.
En Égypte.
Et tous les Hébreux, c'était des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob.
Il a demandé de réunir les anciens parmi les Hébreux.
Les anciens d'Israël. Va rassembler les anciens d'Israël. C'est qui ces anciens?
Ceux qui avaient encore une idée de ce que c'était d'être un Hébreu, ou qui n'étaient pas encore complètement. Un reste de liberté, qui avait conservé un esprit qui pouvait guider les autres peut-être ou les sortir de leur torpeur.
Ceux qui savaient.
D'accord. Ah. Alors, d'accord. Alors, vous vous dites ceux qui savent. Alors, c'est vrai qu'en français, par exemple, nous on arrive en Amérique, on va chez les Indiens des plaines avec David Croquette. On va dans le tipi, yom boum boum yom boum 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 yom boum 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 et on va voir les anciens. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des anciens. En général, les anciens, c'est les sages. Mais comment dans une population se véhicule une sagesse. Petit à petit, on y arrive. Mmh. Pas complètement une pub débile que j'ai fait. Hein. On y arrive. Petit à petit. Hein. Moi-même, je me surprends d'être dans le sujet. Petit à petit. Comment dans une population, quand on voit, par exemple, vous avez déjà vu des westerns. Voilà. Et donc on arrive dans le tipi, on va voir les anciens. Mais ces anciens, comment se véhiculent?
Par les traditions.
Dans la transmission.
Ceux qui transmettent.
Comment?
Ceux qui transmettent.
Ils transmettent. Donc on les appelle anciens. Vous avez dit, c'est pas forcément en âge.
Non. Mais reconnus comme.
Ils transmettent, on les appelle sûrement anciens, parce qu'ils transmettent un savoir ancestral. Donc ici, c'est intéressant de voir que même en Égypte, même s'ils étaient oppressés, même s'ils étaient en esclaves, il y avait des gens qu'on appelle des anciens. C'est-à-dire des gens, même en Égypte, qui véhiculait ou qui était vivace chez eux un savoir ancestral. C'est intéressant. Comment c'est possible? Parce qu'ils étaient oppressés. Un savoir ancestral. Mais le Talmud dit que ça ne se fait pas comme ça. C'est que il y avait ce qu'on appelle Zaken Zaken, ça veut dire sage, ancien. Hein. Yoshev à Yeshiva, ça veut dire assis dans la Yeshiva. Assis dans la Yeshiva. Assis dans la Yeshiva. C'est ça. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Yeshiva. La Yeshiva, de nos jours, là, en 2016, une Yeshiva, c'est une institution où les gens ne font qu'étudier le Talmud. Le Talmud, qui est le corpus traditionnel de la sagesse juive. Le Talmud, avec tout ce qui tourne autour du Talmud. C'est ça, Yeshiva. Mais, qu'est-ce que ça pouvait bien dire en Égypte, Yeshiva? Qu'est-ce que en Égypte, ils disent? Regardez, je reprends. Et ça, c'est la subtilité, le point subtil, c'est qu'ils disent comme ça. Abraham était Zaken assis dans les Yeshiva. Tout de suite. Il était ancien assis à l'Yeshiva. Ça, c'est Abraham. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils vont faire toute une fresque historique. Et d'ailleurs, en Égypte, il y avait ça, cette dimension de Yeshiva, Yoshev ba Yeshiva, en Égypte. Moi, quand je lis le verset, jamais j'aurais dit ça. Cette notion assis dans la Yeshiva. C'est quoi? Pourquoi? Si vous voulez, au niveau méthode, quand on lit un texte du Talmud, bon, évidemment, l'hébreu et l'araméen est censé être assimilé. Hein, naturlich. Voilà. Ça, n'en parlons pas. Ça, c'est pas le problème. Je dis, la preuve, c'est facile. La preuve, j'ai réussi à le faire. Non, c'est vrai. Je suis très mauvais pour les langues. Et j'ai réussi à le faire, donc c'est facile. C'est pas ça le problème du Talmud. C'est pas ça le problème. La problématique, quand on étudie, c'est comme ça que j'ai appris de mes maîtres, c'est qu'ils lisent un verset. Quand tu lis le verset, Dieu a dit à Moïse, va en Égypte et rassemble les anciens d'Israël. Moi, je vois, rassemble les anciens d'Israël, c'est-à-dire les anciens avec eux, ils ont des plumes. Hein. Ouais, ça veut dire les anciens. Boum, 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 boum. OK. Rassemble les anciens d'Israël. C'est bon. Le Talmud dit non. Mais comment ils étaient anciens en Égypte? Comment c'est arrivé? Ça veut dire qu'il y avait des gens en Égypte dont l'activité était que la connaissance. C'est ça. Miméem, jamais dans nos antécédents, ne s'est arrêté qu'il y a eu un groupe humain qui ne faisait qu'être investi dans la connaissance. Il y a toujours eu des groupes humains qui n'étaient que investis dans la connaissance. Ça ne s'est jamais arrêté. Si on dit ancien, parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est ancien? Ancien, ça veut dire il a l'expérience. Il a l'expérience. Il a quelque chose qui lui donne un recul. Mais comment nous, on peut avoir un recul dans notre existence? Comment on peut avoir un recul? Comment on peut? Comment?
On se pose et on réfléchit.
Zatis, comment Zatis de question? Vous voyez, on y arrive quand même. Hein, même si ça avait l'air mal parti.
On fait un lien entre
les deux. Et, en général, pour les gens qui ont l'habitude, j'aborde le sujet un quart d'heure avant la fin. On va l'aborder avant, hein, vous pouvez remarquer. Hein, c'est un exploit quand même. Alors, comment on dit quelqu'un, il est ancien. Donc ça veut dire, il n'est pas Par exemple, moi j'ai entendu un truc extraordinaire. Le mec là, le député écologiste qui est accusé d'harcèlement sexuel, c'est trop rigolo. Non, ça veut dire, parce que on est dans l'événementiel. On est dans l'événementiel. On n'est pas ancien. On vit dans l'événement. On vit dans l'événement. Comment c'est possible d'être ancien? C'est pas une question d'âge. La preuve, notre maître à tous, Jacques Brel, n'a-t-il pas dit? Nous, citons le poète qui disait.
Le temps d'en faire.
Non, ça c'est pas loin, c'est pas loin, c'est dans la même veine.
Oui, c'est pour ça que
c'est Brassens.
Comment?
Non, c'est les bourgeois. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ouais. Les amis, il faut venir avec quelques, quand même, quelques bases culturelles. Donc ça veut dire, comment quelqu'un peut être vieux?
Parce qu'il perpétue.
Je vais vous dire, vous comprenez que c'est un peu ma problématique, parce que hier j'ai eu 60 ans. Or, la Mishnah dit que 60 ans, c'est l'âge de la vieillesse. Donc vous voyez que...
plus une heure.
Comment?
À 60 plus une heure.
Voilà, plus une demi-heure. Donc, vous comprenez que c'est... Comment on peut être vieux? Est-ce que vieux... Comment le texte peut dire « va voir des vieux ». Des vieux, donc ça veut dire... Le Talmud comprend que c'est des gens qui en reculent par rapport. Mais comment ça... Comment c'est possible? Ça, c'est une préoccupation humaine très importante. Comment ne pas être happé par notre quotidien? Comment avoir un recul? Ça c'est vraiment une problématique. Alain, lui.
Va voir les anciens, ça veut dire ceux qui sont vieux, ça veut dire ceux aussi qui sont plus soumis à l'activité de la jeunesse, donc ils sont plus soumis aux contraintes de l'esclavage peut-être parce qu'ils sont trop vieux pour pouvoir être dans une tourmente et dans l'événementiel quotidien, donc ils sont un peu en dehors du quotidien, qui ont la possibilité éventuellement de, puisqu'ils sont en dehors de ceux qui constituent le tourbillon de la vie, ont la possibilité de prendre du recul par rapport à ça. Et deuxièmement, assis dans la yeshiva, je demande si c'est pas méditation, mais si c'est surtout dépositaire d'un siège qui permet d'assurer la fonction des chiffres, que ce soit éventuellement judiciaire, juridique, état civil, etc.
Donc dépositaire, je peux...
Dépositaire d'un siège.
C'est quoi un siège? Ah, un siège. D'accord.
Un siège, voilà. Dans la structure, voilà. de pensée.
Voilà. Alors, regardez, ça c'est la problématique. La problématique est une problématique humaine. Et je pense, moi, problématique de la méditation, ce n'est pas avant que je vienne, mon épouse m'a dit, dis-moi, tu vas parler d'un sujet, tu n'y connais rien. Comment tu peux te permettre? Alors, mais... Alors, c'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai non plus. Ça veut dire que le fait de se poser, effectivement, va nous donner la possibilité de quoi? Alors, ici, le Talmud nous présente cette problématique, mais rajoute un concept. C'est ce rajout que, au sens premier, on n'aurait pas dit ce rajout. Au sens premier, je pense... Bonsoir. Au sens premier... Je pense qu'on ne l'aurait pas dit. On aurait dit, c'est effectivement des gens qui ne sont pas dans le brouhaha de la vie, soit par l'âge, soit par je ne sais pas quoi, et dépositaires d'un savoir ancestral. Le Talmud rajoute, pour ça, ça veut dire qu'ils sont assis dans la yeshiva. C'est quoi assis dans la yeshiva? C'est quoi assis dans la yeshiva? Quand on étudie le Talmud, il faut rajouter un peu quelques mots de yiddish, c'est mieux. C'est quoi assis à l'échelle?
C'est quoi l'époque?
Comment?
C'est quoi à l'époque de
Pharaon? Je croyais que c'était un lien entre l'étude et le fait d'être assis quelque part.
Comment?
J'ai déjà entendu, mais de très loin dans ma mémoire. Il y a un lien entre être assis et étudier.
Oui, alors c'est ça le point. Si vous voulez, au niveau de l'étude du texte, ici, le Talmud rajoute deux mots. C'est ce mot « assis » à la yeshiva. Il y a une Mishnah, je pense que, vous, Laurence, vous faites référence à un texte des Maximes des Pères qui dit « Marbe yeshiva, marbe chorma. » Si tu t'assis beaucoup, tu rajoutes de la connaissance. Marbe yeshiva, marbe chokma. Tu rajoutes de l'assise, du fait d'être assis, tu rajoutes de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si en Égypte, il y avait des gens que le verset appelle des anciens, c'est que leur activité n'était que la connaissance. Leur activité n'était que la connaissance. On ne peut pas véhiculer une connaissance si on n'est pas assis dans cette connaissance. Ça veut dire, c'est ça ce que le Talmud dit, qu'en Égypte, même en Égypte, où on dit qu'il y avait une assimilation totale, un esclavage total, pas seulement physique, mais même mental, l'opaska yeshiva, il y a toujours eu un groupe humain qui n'a fait que s'occuper de connaissances. Donc ici, il y a une nuance que nous allons voir. Insister dans la suite. C'est ça le concept de yeshiva. C'est quoi une yeshiva? Aujourd'hui, dans le peuple juif, il y a des yeshivot. Le pluriel de yeshiva, c'est yeshivot. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une yeshiva. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi le concept? Yeshiva, c'est pas forcément le côté institutionnel, mais c'est un endroit dont l'activité n'est que de s'occuper de connaissances. Il y a 100 ans et quelques années, en Lituanie, il y avait une grande yeshiva qui s'appelait l'yeshiva d'une ville qui s'appelait Volozhin. Cette ville existe toujours, Volozhin. Et le gouvernement russe a demandé que les institutions, toute institution, ait au moins une heure par jour d'études du russe. Voilà. Le maître de l'époque, qui s'appelait Rav Berlin, le Rav de l'Yeshiva, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, voyant qu'il ne pouvait pas négocier, il a dit, je ferme la yeshiva, je préfère fermer la yeshiva. Dans une yeshiva, on ne fait qu'étudier le savoir. Mais on ne mêle pas d'autres connaissances. C'est un débat qu'il y a aujourd'hui en Israël. Il y a des gouvernements multiples et divers en Israël qui veulent obliger des études de mathématiques, etc., dans les yeshivot. Et il y a des gros remous. Mais je rapporte, une yeshiva, c'est un endroit où on ne fait qu'étudier la tradition. C'est ça ce que le Talmud dit. Que ça ne vient pas, ça veut dire des anciens, donc ça veut dire des dépositaires d'un savoir ancien, qu'ils ont reçu d'avant, c'est ça, ancien. Ancien, parce que tu peux avoir quelqu'un qui a 80 piges, il peut être d'abord un abruti, et il peut avoir une fascination pour la modernité. Il n'est pas forcément un recul, c'est pas parce qu'on a un âge. Bon, c'est vrai, Alain, vous dites qu'à un certain âge, il paraît qu'on n'est plus dans les folies de la jeunesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si quelqu'un, on peut l'appeler les anciens, c'est qu'ils sont dépositaires de quelque chose qui a du recul par rapport à l'instantané. Le Talmud ici nous dit, et c'est ça le point central que nous allons voir dans la suite, le Talmud nous dit, ça c'est possible que si on est assis dans les Shiva. C'est quoi assis? C'est-à-dire que c'est la seule activité qu'on a. C'est la seule activité qu'on a. Ça veut dire qu'on est dans la connaissance. C'est ça, yeshiva. Assis dans la yeshiva. On est assis. Ça s'appelle Yoshev va yeshiva. C'est ce qu'il dit. S'il y avait des anciens, c'est que le truc incroyable, c'est que même en Égypte, l'opaska yeshiva, il y a toujours eu un groupe dans le peuple d'Israël qui n'était investi que dans la connaissance. Continuons un petit peu, parce que fort de cela, le Talmud va faire des lectures de versets stupéfiantes. Bamidbar, dans le désert. Alors, Bemitzrayim, on voit, c'est écrit va, rassemble les anciens d'Israël. Dans le désert, ils étaient dans le désert, Yeshiva Imaël. Il y avait toujours un groupe du peuple juif, du peuple d'Israël, qui n'était que occupé dans la connaissance. Comme dit le verset, Dieu dit à Moïse, « L'air vas esfali shivam ish mizikne Israël. » Va rassembler 70 hommes des anciens d'Israël. Donc ça veut dire que dans le désert, il y avait des zikne Israël. Il y avait des gens qu'on a pu dire, ce sont des anciens d'Israël. Mais comment ils peuvent être anciens? Ça veut dire comment c'est possible que quelqu'un ait un recul par rapport à l'événementiel? C'est qu'il y avait un groupe important d'Israël qui était occupé que dans la connaissance. Et c'est fort de ça que maintenant le Talmud va dire que Avram, Zaken, Veyoshev, Veyeshiva, Aya. Avram, si le concept de Zaken veut dire Yoshev Bayeshiva, lorsque le verset dit, regardez, alors c'est incroyable, incroyable. Le verset dit, Avram Zaken Babeyamim. C'est dans le chapitre 24 de la Genèse, verset 1. Regardez, c'est incroyable. Le verset dit, Avram Zaken Babeyamim. Avram était vieux, il allait dans les jours, et l'Éternel bénit Avram en toutes choses. C'est beau comme un verset biblique. C'est beau, je le redis même. Hein? C'est biblique, non? Avram était vieux, avancé en jours. L'Éternel bénit Avram dans tout. C'est beau, hein? Le Talmud dit, mais comment il était Zaken? Comment Avram était Zaken? Comment le fort de ce qu'on vient de voir, comment on peut dire qu'Avram était vieux? Peut-être que non. Peut-être qu'Avram était dans le monde. Il était dans la trivialité du monde. Comment on peut dire qu'il était vieux? Fort de ce qu'on vient de dire, Abraham était investi que dans la connaissance. C'est une innovation. C'est-à-dire que on n'a pas du recul par rapport à la vie. La connaissance, c'est avoir du recul. Mais ce recul, il faut le nourrir. C'est pour ça, il est possible que dans notre noble assemblée, il y a des personnes qui ont une pratique de la méditation, et j'aimerais bien discuter de ce point-là. Comment nourrir ce recul? Il se nourrit par quoi? C'est une question que je vous pose.
En s'appropriant le passé.
L'expérience.
Et le ramener au futur, au présent.
Mais dans la méditation, parce que dans la méditation, comment? Parce que dans la méditation, lorsque j'étais adolescent, je vais vous dire des petites choses qui vous, je sais pas, anecdotiques, mais quand j'étais adolescent, je connaissais rien au judaïsme, strictement rien. Et j'étais très très attiré par les doctrines extrêmement orientales et orientales. Et dans la ville où j'habitais, je suis allé voir le seul professeur de sanskrit qui était dans la ville où j'habitais pour apprendre le sanskrit. Vous savez ce que c'est le sanskrit? C'est la langue sacrée hindoue. Voilà. Et ce professeur de sanskrit, qui n'était pas juif, je vais vous dire, il m'a reçu. Ce professeur, qui n'était pas juif, était très érudit, et dans sa bibliothèque, il avait ses livres, c'est-à-dire la Torah avec le commentaire de Rashi en hébreu et traduit en français. J'avais 16 ans, et je n'ai jamais su vraiment comment il savait que j'étais juif. Il m'a dit, Gérard, laisse le sanskrit, c'est ça qu'il faut que tu étudies. Ça paraît bizarre, hein. Mais en tout cas, c'est je le témoigne. Et je n'ai pas fait ça tout de suite. J'ai fait du bouddhisme pendant un certain temps. Et je suis allé des stages de méditation. Donc, je ne suis pas un expert. Mais, loin de là, mais ça m'a beaucoup interpellé. La question, effectivement, comment ne pas être que dans le moment, avoir du recul par rapport à ce moment. Bon, nous, dans la vie juive, on a le Shabbat. Le Shabbat est vraiment le moment central d'avoir un recul par rapport à son quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, c'est un goût du monde futur. À l'intérieur de notre monde ici, il y a un break. Mais ce break, il est actif. Si vous voulez, c'est ça ce qui m'interpelle quand même. C'est pas un break méditatif, c'est un break actif. Mais c'est un break. Et au niveau d'avoir d'un recul, ici nous voyons dans le texte du traité Yoma que on ne peut en vérité véhiculer au sein du peuple d'Israël un recul, que le peuple d'Israël n'est pas complètement englouti dans l'événementiel, même en Égypte, et même paradoxalement, même dans le désert, par le fait qu'il y a une population qui n'était que dans la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui est interpellant à plusieurs points. C'est que les connaisseurs, les hommes d'État, grands hommes d'État, ils savent qu'une culture ne peut être vivace que s'il y a une partie importante de gens qui sont dans la recherche fondamentale. Sans la recherche fondamentale. On sait que depuis, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans, les centres de recherche ont dit « Oui, il faut que la recherche soit liée à l'entreprise. » À un certain niveau, oui. Mais à un certain niveau, non. S'il n'y a pas de recherche fondamentale, la culture n'a pas de vitalité. On voit, par exemple, les grands dirigeants qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, Louis XIV, ben, ils ont créé le Collège de France, ils ont créé des centres où il n'y avait que de la connaissance, la littérature, les sciences, etc. Napoléon, je ne sais pas d'où c'est venu à Napoléon. Napoléon, regardez, c'est incroyable. Napoléon, outre le fait qu'il est mort à Sainte-Hélène, ce qui ne fait pas de doute, mais quand il est allé, il était tout jeune, ils sont allés en Égypte. Il a amené la crème des savants en Égypte. C'est un truc incroyable. Incroyable. Comment cet homme de guerre, il a une idée. Je fais la guerre, j'amène des savants avec moi. Mais c'est fou. C'est fou. Une société n'est vitale, ne vit que s'il y a des gens qui ne sont que dans la connaissance. Aujourd'hui, on te dit, oui, quelqu'un, il n'est que dans la connaissance. Ça paraît pervers d'être la connaissance. Ça a l'air d'être des gens, je ne sais pas. Comment ?
Ils sont rejetés par
les gens croient que c'est des malades. Mais en vérité, ça apporte à la société. Ici, le recul qu'on peut avoir par rapport à l'événementiel, il n'est pas, si je peux me permettre, que dans la passivité. C'est-à-dire, je me retrais, je suis comme un. Je fais une retraite. Non, ce n'est pas la retraite. Ce n'est pas une retraite du quotidien. C'est un approfondissement fondamental du quotidien. C'est la connaissance. Mais pas seulement la connaissance au niveau... Pas seulement la connaissance au niveau... un peu de connaissance, un peu de culture. Non, au niveau... investissement. Une population... Il faut une population dont l'activité n'est que la connaissance. Ça, c'est ce qu'on dit. Abraham est vieux, va dans les jours. Regardez ici la lecture incroyable du texte. Abraham est vieux, avance dans les jours. C'est biblique, là. Le Talmud dit, comment c'est possible? Parce qu'il était investi complètement dans la connaissance. Il n'avait que son investissement, c'était la connaissance. C'est comme ça qu'il peut être vieux. Ne pas être que dans l'événementiel. Il avance dans les jours. Ça veut dire, il avance dans les jours. Ce n'est pas les jours qui l'écrasent. Que nous, on dit, comment, il avance dans les jours. Il est vieux, il avance dans les jours. Vous parlez, nous, ici, on est les parigots. Ouais. Alors, comment tu vas? Ouais, ben ça va, hein. Mais tu sais, j'ai du temps pour rien. Oh là là, j'ai du temps pour rien. Je fais que bosser, j'ai du temps pour rien. Mais Abraham, il est vieux, il avance dans les jours. Il a le temps. Comment c'est possible qu'il a du temps? Ça veut dire il n'est pas objet de sa vie. Il est sujet. C'est lui qui avance. Comment il avance? Ça, c'est la connaissance. Et regardez les versets que le Talmud va apporter maintenant. C'est encore plus fracassant. Yitzhak Avinu, Zaken veYoshev baYeshiva Aya. Isaac était un ancien assis à la Yeshiva. Comment le sait-on? Comme dit le verset, alors je cherche le verset, une petite seconde. C'est dans Bereshit 27. Alors, un autre verset super biblique. Je vous lis ce verset biblique au cube. Quand Isaac fut devenu vieux, la vue de ses yeux s'affaiblit. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Donc, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il va dire à Ésaü ? Monsieur, qu'est-ce qu'il va dire ? Non ? Vous n'avez pas vu le film ? C'est aussi étonnant. Je ne crois pas qu'il y ait eu un film là-dessus. Oui. Il y a eu un film ?
Ouais.
Ouais.
J'ai pas le titre, mais enfin, c'est l'histoire depuis Abraham jusqu'à l'arrivée des Juifs en Égypte.
Non, mais c'est un truc folle.
Non, mais...
Ah bon ? Ah bon. En tout cas, donc Isaac est vieux et ses yeux, il ne voit plus clair. Il demande à Ésaü, viens mon fils, je vais te donner la bénédiction. Rebecca entend ça et dit à Jacob, non, c'est une catastrophe, ton papa il est complètement dans le cirage. Ouais, il faut que ça soit toi qui prennes la bénédiction. D'accord. Donc tu vois le verset, Isaac est vieux et il est aveugle. Donc, ok, bon, c'est simple, il est vieux, ça arrive, des gens, ils sont vieux, ils voient plus clair. Le thème nous dit, mais comment le texte peut-il dire qu'il est vieux ? Donc ça veut dire qu'il est Yoshev Bayeshiva. C'est du délire. Et alors, pourquoi il est aveugle ? J'ai vu les commentaires, le Maharsha, c'est-à-dire comme l'étude est accaparante, fatigante, comme dit Maïmonide, le travail intellectuel intense est plus fatigant encore qu'un travail physique. Donc ça l'a esquinté, il ne voyait pas clair. Et c'est pas comme ça qu'on lit le verset a priori. Qu'est-ce que ça veut dire que Isaac est vieux ? Ce verset est relativement connu. Isaac est vieux, et il ne voyait plus clair. Comment c'est possible de dire que Isaac était vieux ? Yoshev Yeshiva, la vie de Isaac, il était investi dans la connaissance. Alors, s'il investit dans la connaissance, pourquoi il ne voit pas clair ? Maïmonide explique cela. Maïmonide explique de manière sublime. Maïmonide, dans le cinquième chapitre du traité des huit chapitres. Cinquième chapitre. Maïmonide a écrit un petit opuscule, introduction à Pirkei Avot, qui s'appelle le traité des huit chapitres. À la fin du cinquième chapitre, Maïmonide dit la chose suivante. L'investissement de notre existence doit être dans la connaissance. Qu'est-ce que, pour Maïmonide, c'est simple. Tu poses la question, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie ? Pour Maïmonide, c'est simple. C'est la connaissance. Si la connaissance est ce qui doit régir mon existence, toutes mes activités doivent participer à la connaissance. Par exemple, quand je mange, je dois manger pour être en bonne santé. Parce que si je suis en mauvaise santé, je ne peux pas être investi dans la connaissance. Donc manger des bonnes choses, des choses bonnes pour la santé, pour être en bonne santé, pour pouvoir m'investir dans la connaissance. Il fait tout il dit par exemple, quelles connaissances, quelles disciplines doivent participer de la connaissance ? Est-ce que par exemple les mathématiques participent de la connaissance ? Qu'est-ce que les mathématiques développent en nous pour arriver à une connaissance profonde des choses ? Maïmonide dit comment ?
La logique.
Très bien. Maïmonide dit qu'a priori, les mathématiques ne participent pas à la connaissance. Et a priori, non. Mais néanmoins, elles développent en nous la capacité de prouver nos dires de manière logique, ce qui est vital pour la connaissance, etc. Il passe toutes les activités humaines. Il dit, maintenant, est-ce que avoir des beaux habits classe participe de la connaissance ? Est-ce que... Je vais le casser. Est-ce que avoir des habits classe et des meubles design participe de la connaissance ? Alors, Maïmonide dit... Ah, ça, c'est... Pour moi, c'est des choses les plus profondes. Il dit, a priori, non. Pourquoi ? Parce que ça te demande de l'argent. De l'argent, il faut gagner cet argent. Donc, c'est du temps que tu perds à la connaissance. Avoir de l'argent, c'est très important, mais de manière modérée. Parce que sinon, tu passes ton temps à des choses qui ne sont pas de la connaissance. Il faut être indépendant financièrement. Mais... de ne pas trop s'investir. Donc, avoir la plus belle voiture up-to-date qui vient de sortir, etc., ne participe pas de la connaissance. C'est-à-dire, tu t'investis dans des choses qui t'éloignent, au contraire, de la connaissance. De la même manière, avoir les habits super classe, c'est la même veine. Il dit, quelqu'un qui s'occupe de la connaissance ne va pas s'occuper de changer la déco, machin, bidule, tu perds ton temps. Il dit, néanmoins, le Talmud dit, Ishana kelim naim umita mutsad et tamide chachamim, que une femme qui fait attention d'être belle, c'est vital pour quelqu'un qui investit dans la connaissance. Pourquoi ? Parce que, dit Maïmonide, la connaissance a un paradoxe. C'est qu'étant donné que tu es investi dans la connaissance, à un moment, la connaissance rend... Étant donné justement qu'avoir du recul par rapport à tes contemporains, tu te rends compte de la médiocrité humaine et tu risques d'être dépressif. La connaissance rend dépressif. Donc le fait que ton épouse soit avenante, qu'elle fait que ta maison, elle soit jolie, qu'elle te fait que le cadre dans lequel tu vis soit joyeux et beau, ça t'éveille à une joie, ça te sort de ta dépression, ça te donne un goût à la vie. Donc, il dit, même ce qui peut paraître frivole, à première vue, participe, au plus haut point, à la connaissance de Dieu. Il dit, et ça, c'est la dimension de la féminité, dit Maïmonide, qui amène la connaissance à la prophétie. Parce que la connaissance, il y a un problème, un paradoxe dans la connaissance. C'est le fond, en réalité, du sujet. La connaissance, c'est connaître, autre chose que moi. C'est découvrir. D'ailleurs, la relation entre un homme et une femme s'appelle dans notre tradition connaître. Parce que c'est la perception d'une autre réalité que soi. Donc la connaissance est un éveil à autre chose que soi. Mais cette connaissance, il faut être investi dans la connaissance, sinon tu es dans la superficialité. Mais d'un côté, la connaissance t'amène à un recul. Mais ce recul, quelque part, est morbide. Et c'est ça ce que, traditionnellement, la femme apporte. C'est ça le dialogue qu'il y a entre un homme et une femme dans notre tradition, où le couple, la femme, amène un autre regard que la connaissance type, un certain mode de connaissance, et va amener la connaissance qui risque de se fermer sur soi-même à la prophétie. C'est quoi la prophétie ? C'est la perception d'une autre réalité, d'une connaissance supérieure. Donc c'est ça ce que dit Maïmonide, que la connaissance, qui est l'activité principale de notre investissement, de notre existence, paradoxalement, qui est vitale, et c'est ce qu'on voit dans notre texte, que la connaissance, c'est un investissement de la vie, mais un moment risque de rendre aveugle. C'est ce qu'on voit. Isaac, il est devenu aveugle. Et sa femme, elle n'arrivait plus à dialoguer avec lui. Il a fallu qu'elle le magouille pour que... C'est un risque. Et je pense que ce risque, c'est ce risque qui fait que nous, on n'ose pas se lancer dans la connaissance. On n'ose pas. Parce qu'on dit, on va se couper. On va se couper du monde. Mais vous voyez, c'est ça le paradoxe. Il faut se couper du monde pour vivre. Il faut se couper du monde pour vivre. Pour finalement être présent dans le monde. Et pour revenir au niveau purement textuel du texte, au niveau logique du texte, je ne sais pas si vous avez gardé en tête d'où on était parti. je vais être bon là, je vais essayer de vous reprendre le texte. Le début, Abraham faisait la prière à 6h01. Comment ça se fait que nous, on fait la prière à 6h30 et pas à 6h01? Réponse, trois réponses. Troisième réponse, Abraham, Zaken, Beyoshev, Bayeshiva. Zaken était ancien, assis dans la yeshiva. En quoi dire qu'il est Zaken Yoshev à yeshiva est une réponse à la question? Il me semble que ça signifie que le temps, qu'est-ce que c'est? Comme dirait notre brave Heidegger, sein und Zeit. Être et le temps. C'est quoi le temps? Le temps, nous, le temps, c'est une extériorité. J'ouvre mon appareil, il dit, il est telle heure. L'heure est extérieure à moi. Je me conforte à une heure extérieure à moi. Mais le Zaken Yoshev Bayeshiva, c'est lui qui définit le temps. Ce n'est pas le temps qui le définit. C'est lui qui définit le temps. Abraham, il existe. Yeshiva, ça veut dire il est là. Il est assis. Même s'il est debout physiquement. Mais il est assis. C'est lui qui définit le temps. Pour définir le temps, il faut un investissement dans la connaissance. Cet investissement dans la connaissance, c'est un investissement d'une vie. Ce n'est pas simplement de manière de temps en temps, comme ça. C'est un investissement. Peut-être pas toute la population peut le faire. Ça n'a aucun sens que ça soit toute la population. Mais c'est vital qu'il y ait une partie de la population qui soit là-dedans. Ça, c'est vital. Sinon, on tourne en rond. On tourne en rond. Peut-être que chacun d'entre nous, il faut une partie de notre être qui soit investi quelque part dans la connaissance. Ça dépend, il y en a peut-être toute leur vie, il y en a une partie de leur vie. Ça dépend de chacun, il n'y a pas un seul modèle.
Par connaissance, on entend connaissance des textes ou pas? On se place du point de vue du judaïsme, on se place...
C'est-à-dire, les textes, c'est un moyen de véhiculer une connaissance.
Un état d'esprit, alors.
Non, c'est un moyen. Le texte, ça s'appelle la tradition orale. Oui. C'est-à-dire, c'est une tradition orale qui se véhicule par le biais de textes. Maintenant, ça peut être chez les Juifs comme ça, chez d'autres, ça peut être autrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière, en dilettante. C'est un investissement. Cet investissement, et je pense qu'on a peur aujourd'hui, parce que peut-être à juste titre, on a peur d'être dans cet investissement. J'ai connu des gens qui ont fait de la recherche fondamentale, et à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus traders. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Ouais. Il y en a plein, ils ont fait des doctorats de philo. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ouais, finance. Il y en a plein. C'est. Parce qu'on a une peur, peut-être justifiée, que quelque part la connaissance nous dépasse. C'est ça, Isaac, il voyait plus clair. Il voyait plus clair, mais en vérité, pour reprendre la démarche de Maïmonide, il n'avait plus de dialogue avec sa femme. Abraham, on voit toujours Abraham, il discute toujours avec Sarah, mais toujours dans une discussion. Ils ne sont pas d'accord, mais ils discutent. Abraham, il avance dans les jours. Il avance dans les jours. Isaac, à un moment, il n'y avait plus ce dialogue avec Rebecca. Et il est devenu aveugle. Il ne voyait plus clair. Et c'est ça le risque. C'est pour ça que dans notre tradition, ça n'existe pas un talmudiste qui n'est pas marié. Ça n'existe pas. Parce que la femme, pour reprendre la démarche de Maïmonide, fait accéder la connaissance à la prophétie. C'est ça la fonction de la femme, d'ouvrir cette connaissance, de peut-être contester cette connaissance, de la contester pour en faire quelque chose, que cette connaissance fasse quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'aimerais synthétiser notre étude. J'aimerais synthétiser cette étude par le fait que la préoccupation que nous avons de nos jours, que beaucoup disent que c'est une nécessité vitale de prendre du recul par rapport à notre quotidien, c'est vital. C'est quelque chose de vital. Notre tradition juive, d'après ce que nous voyons là ce soir, disent effectivement c'est vital. Mais ce n'est pas simplement quelque chose de passif. Ce n'est pas se couper du quotidien, simplement comme ça, de manière passive. Mais c'est construire, nourrir ce recul. Nourrir, c'est par la connaissance, par apprendre, le fait d'apprendre. Et pas au niveau dilettante. Et ça, c'est quelque chose qui est vital. Au niveau individuel et au niveau collectif. Mais il doit être sur la forme dialectique, sur la forme du dialogue. Si c'est que passif, soit seul, ça devient même aveugle, ça rend aveugle. Et j'aimerais conclure, mais je vous le dis oralement par un passage dans le traité Kiddushin d'Aflamed Amoud Bet, que l'étude traditionnelle se passe jamais seule. Nos maîtres dans le Talmud nous disent que quelqu'un qui étudie seul, qui est dans la connaissance seul, pas seulement il devient idiot, mais il faute. La connaissance, elle est dans le dialogue. La nourriture de cette connaissance est dans le dialogue. C'est pour ça, dans notre tradition, on est toujours en bagarre. Mais le dialogue fondamental, c'est ce qu'on voit avec Isaac et avec Abraham, c'est l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étude du Talmud s'il n'y a pas de couple. Voilà grosso modo ce que je voulais voir. si vous avez des remarques, si vous avez des remarques, donc je dirais que ces préoccupations que nous avons aujourd'hui, qui s'expriment, il y a énormément de coaching, de méditation, de stage de méditation, mais je dirais, ce qui est recherché là-dedans est tout à fait légitime, tout à fait légitime, mais notre tradition est dans une nourriture de ce recul, et le cœur de cette nourriture, c'est le dialogue, pas simplement la passivité.
Et le mot méditation, vous mettez où dans cette phrase-là ?
C'est pas vraiment la méditation, non, c'est ce recul, ce recul est vital. Zaken, c'est ça, c'est le concept de Zaken, l'ancien. Mais si vous voulez, je me porte un peu en faux par rapport à une méditation simplement sur soi-même. La recherche d'un recul sur soi-même est une fermeture.
C'est pas tout à fait ce qu'on entend dans la manière dont on nous présente la méditation.
Enseignez-moi.
On nous présente la méditation comme étant le fait d'approcher la conscience du présent et l'éveil, c'est-à-dire autant aux autres qu'à tout l'environnement. Donc c'est loin d'être un enfermement. C'est plutôt une ouverture, en réalité. C'est pas du tout l'enfermement. Enfin, c'est pas comme ça qu'on nous présente. Donc, c'est qu'on appelle la pleine conscience, en fait. C'est ça qui est enseigné aujourd'hui.
D'accord.
C'est la méditation par la pleine conscience qui est utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux pour traiter la dépression. Et avec laquelle on obtient très bons résultats. Je ne sais pas si vous le savez. Mais
voilà. Mais c'est en groupe. C'est pas que personnel.
Non, mais c'est en groupe. Mais c'est en groupe ou personnel. Hein. Ça peut être personnel. C'est en groupe ou personnel.
Oui.
Hein.
Oui. Après, il faut pratiquer, mais ça part d'une démarche des MBSR.
C'est la MBSR.
Oui, MBSR, c'est pour la dépression, mais le MBSR, c'est pour la réduction du stress.
Oui.
Ce sont des groupes dans un premier temps. Et ensuite, on pratique soi-même, mais on reste juste conscient de son rapport à l'autre. On est dans du sensoriel, mais ça ne nous empêche pas d'être actifs tous les jours.
D'accord.
C'est sur un moment de 45 minutes par jour, par exemple. Mais la méditation de pleine conscience, vous la faites en marchant, en parlant, en travaillant. C'est un moment où vous arrêtez une minute et vous vous dites « Ah tiens, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est pas, ça reste actif pour moi.
C'est pour ça que je voulais vous entendre.
Oui.
Mais on pourrait dire l'équivalent dans notre tradition quelque part, c'est ce qu'on dit kavata etim la Torah. Il faut que chaque jour on ait un moment, on s'arrête pour être investi dans la connaissance. Peu importe la quantité de ça, peu importe le quantitatif. Mais à un moment, on doit s'arrêter pour, alors notre tradition dit pour l'étude de la Torah. Mais c'est un moment fixe par jour. Peu importe.
Mais ça part de la même démarche.
Non, c'est la même démarche.
Dans la méditation, c'est pas la connaissance, excusez-moi.
Non,
ça n'a rien à voir avec la connaissance.
Non, c'est la prise de recul.
Oui.
C'est la conscience du présent. C'est tout à fait
autre chose.
Quand vous utilisez le mot connaissance, c'est presque des connaissances. Ce sont des informations. Un savoir que je vais intégrer.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec la méditation. Il n'est pas question d'un savoir. Il est question d'une expérience de la relation au présent.
C'est autre chose.
Moi, je ne suis pas d'accord parce que lorsque l'on étudie, par exemple, on peut tout à fait considérer qu'on est présent à ce qu'on fait.
Bien sûr.
Donc c'est une manière d'être en méditation, puisqu'on est soi-même là, en train d'étudier, en train de... On est au moment présent, dans le fait. Donc,
quand on étudie en dehors du temps, enfin, le temps n'a plus la même valeur.
Oui, c'est...
C'est juste un
autre état. C'est bizarre, il y a des paradoxes.
Oui, il y a des paradoxes. C'est paradoxal. C'est paradoxal.
Dans tous les actes de la vie. C'est la méditation.
Mais si vous voulez, je ne cherche pas à dire que c'est la même chose. Je ne cherche pas, je ne cherche pas du tout à dire, d'abord, je suis incompétent, mais au niveau intuitif, j'ai l'impression que la préoccupation base est la même. La méthode n'est pas la même. Mais la préoccupation base est la même. C'est ce qu'on voit que Abraham, la troisième réponse du Talmud, au niveau technique de ce texte, Abraham fixe le temps. Il fixe le temps. C'est pas le temps qui lui... qui s'impose à lui, style, voilà, l'heure me dit que... D'ailleurs, ce concept d'heure est un concept très pratique, extrêmement pratique, avoir la montre, ou je sais voir, mais une partie importante de l'humanité a vécu ou vit encore aujourd'hui sans montre. C'est une autre manière de vivre le temps. Le temps, nous, on a grandi avec des montres. On grandit avec ça. Donc pour nous, le temps est quelque chose, c'est une extériorité. Le Talmud, par ce dont on parle, arrive que Abraham, c'est lui qui fixe l'heure. C'est pas l'heure qui lui fixe. Ça, c'est au niveau intuitif, une proximité avec ce dont vous parlez. Voilà. C'est tout. Bon. Ok, ce sont des pistes de travail.
C'est une précision.
Oui.
Juste, je suis un peu étonné parce que c'est vrai que dans la Bible, finalement, Abraham est plus présenté comme un homme d'action. Donc, ça veut dire que c'est paradoxal. Parce que...
C'est complètement paradoxal, Chaim. Ce passage, je l'ai vu là, il y a quelques jours avec des élèves, on est tombé par terre. Ça veut dire Isaac aussi, et Isaac est présenté un businessman. On voit, il fait plein d'affaires à Parashat Toldot. Abraham aussi, il fait la guerre, machin, bidule. Et là, ça a l'air d'être des gens qui sont investis dans autre chose que l'action. C'est vrai, c'est paradoxal.
Vous aviez l'air de dire que c'était les gens qui faisaient cette démarche-là, c'était un peu une démarche exclusive. Donc c'est...
Exclusive.
Ouais.
Exclusive.
Donc Abraham, il n'était pas exclusif puisqu'il était...
Ça, c'est la démarche de monsieur. C'est la remarque de monsieur.
Mais c'est comme ça.
Mais le Talmud bouleverse la lecture du texte. Ils mettent un coup de pied, comment, un coup de pied dans la lecture simple du texte. Moi, j'aurais jamais donné cette lecture du texte. C'est vrai que la lecture, c'est tout à fait comme tu dis. On voit Abraham, c'est le super-héros, quoi, Marvel. Mais Marvel qui est en train d'étudier avec ses potes, quoi. Ok, bon, c'est quelques directions de travail. Merci à vous.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté un bouquin. Je voulais savoir si vous en aviez un. Ça dit, enfin, je suis qu'à la moitié.
Oui, alors vous savez.
Je suis un peu calée.